Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission sport temps additionnel. Pour m'accompagner aujourd'hui, Alex sera encore une fois à mes côtés. Adichat, à toi.
Adichat, Raphaël, comment ça va?
Bah ça va très bien et toi, comment ça va?
Franchement impec, hein, mais bon, au vu de l'actualité qu'on va traiter, ce sera moins joyeux.
Ah, il y a des hauts, il y a des bas aujourd'hui dans l'actualité. Gros programme, hein, la Champions Cup pour le rugby et l'affiche de la finale qui est enfin connue. Il y a aussi les demi-finales de Champions League. Qui battent leur plein avec un premier finaliste qui s'est dessiné aussi hier soir, et on parlera évidemment du match de ce soir. On parlera aussi de l'Europa League qui est aussi très intéressante cette année. Côté foot, on reste côté foot, notre bonne vieille Ligue 1 avec nos violets est encore là, et Alex et moi nous étions au stadium pour vous raconter un peu ce match en virage Brice. La Formule 1 aussi faisait son retour ce week-end pour le grand classique Miami, avec toute sa communication bien connue autour de ce Grand Prix. Et enfin, on terminera par des nouvelles du Phoenix. La première actualité, c'est bien sûr le rugby, la Champions Cup et la désillusion du Stade Toulousain face à l'UBB. Défaite 35 à 18 pour les stadistes. Face à un club de Bordeaux qui a été tout simplement supérieur, Toulouse qui a fait trop de fautes de main durant tout le match, un Louis Bielbarré qui a été exceptionnel sur les côtés pour l'UBB, une défense aussi très solide du côté des Bordelais qui leur a permis de rester soudés. C'était un vrai jeu d'équipe du côté de Bordeaux face à une équipe toulousaine qui a du mal contre l'UBB cette saison. Ça fait 3 matchs, 3 défaites pour le Stade Toulousain. Donc l'UBB partait favori par les résultats qu'ils avaient déjà eu face au Stade Toulousain, mais apparemment, là, c'est un peu compliqué pour le Stade qui vient de perdre ses chances de titre, ses chances de doubler, ses chances même de quadrupler avec le top 14. Défaite 35 à 18 dans un match sans appel.
Franchement, 35 à 18, bon, on ne s'y attendait pas non plus. Alors c'est vrai que malheureusement, le Stade Toulousain devait un peu avoir une équipe secondaire, dans le sens que bah, il n'y avait pas Dupont, il n'y avait pas Ramos. Ramos qui de base est habitué, enfin on le voit toujours sur la fiche de match, pardon. C'est lui qui justement s'occupe des pénalités, transformations, on sait qu'il est assez bon. Après bien sûr, j'ai confiance en Juan Cruz Malia. Et d'ailleurs, en vrai, Juan Cruz Malia a quand même bien joué, même à contre Bordeaux. Je veux dire, il a quand même inscrit 2 pénalités, Juan Cruz Malia. J'ai vu plutôt dans son jeu du potentiel, honnêtement. Il a très très bien joué. Après oui, on a vu aussi le retour de Ange Capuozzo, qui a enfin pu jouer en Champions Cup contre Bordeaux. Mais malheureusement, trop d'erreurs. C'est pas tant l'équipe, parce qu'en vrai, on a lié une petite équipe secondaire. Honnêtement, je suis pas si déçu, parce que ça se voyait quand même que, on va dire que oui, il jouait bien, mais malheureusement, comme je te dis, trop d'erreurs. Et Bordeaux, ça se voyait que c'était des morts de faim. On voyait justement que Bordeaux voulait à tout prix se qualifier pour la finale, c'est ce qu'on a vu. C'est pour ça justement, quand ils faisaient le jeu de passe, c'était, je veux pas dire parfait, mais c'était beaucoup mieux que nous. Enfin bon, si tu veux, je te laisse parler.
C'était vraiment une vraie équipe en face, hein, finalement, de l'UBB, qui a montré une vraie cohésion de groupe comparé au Stade Toulousain qui doit bricoler avec ses blessés, avec ses jeunes. Bon, c'est quand même prometteur parce qu'ils ont quand même tenu tête à l'UBB qui est en grande forme face au Stade Toulousain. Mais après avoir le Stade Toulousain a l'habitude de se prendre des points dès le début de match. Ils arrivent souvent, la fameuse 50e minute toulousaine, maintenant on la connaît, on y a cru. Au bout d'un moment, retour toulousain, puis ils se sont tout simplement effondrés. Il y aurait peut-être pu avoir un espoir de remonter avec peut-être un en avant qui a été sifflé injustement aussi au bout d'un moment. Mais bon, on est Toulousain, on aime bien râler contre les arbitres finalement.
Puis même, parlons de Bordeaux, parce que, comme je t'ai dit, une grosse équipe de Bordeaux contre nous, en même temps c'est un peu normal, quand t'affrontes le Stade Toulousain, tu vas pas ramener l'équipe du dimanche, hein, tu ramènes les titulaires. Damien Pomedo, qui bon, évidemment est sorti en cours de match à cause d'une blessure à la cheville, mais qui avait dit justement qu'il est prêt pour affronter Northampton, donc en finale. Mais donc je vais reparler toujours des joueurs de Bordeaux, Bielbarré. Impressionnant, Bielbarré, surtout en plus son essai à la 23e, exceptionnel. Mais pour moi, le plus impressionnant, c'est dès l'entame de la seconde période, à peine 40e minute et 20 secondes de suite, c'est inscrit un essai. Même les commentateurs, Larto et Yachvili, ils se sont dit, mais les supporters n'étaient même pas là, qu'il y avait déjà un essai pour Bordeaux.
Ceux qui étaient à la buvette, ils ont raté l'essai finalement.
Exactement. Donc oui, malheureusement, bon, Toulouse a essayé de faire ce qu'ils ont pu, mais qu'est-ce que je te dis, hein, c'est le rugby, c'est cruel, c'est comme ça.
Et la pénalité aussi de Maxime Lucu de 60 mètres, qui mentalement, il a pas pris beaucoup de points, il a pris que 3 points finalement, mais mentalement, se prendre une pénalité de 60 mètres quand t'es déjà dominé, quand t'as du mal, c'est dur. Donc franchement, ils ont joué les coups à fond, ces Bordelais, et c'est mérité. On a eu l'interview de Damac à la fin du match pour dire que Toulouse avait aussi très bien joué, mais l'UBB était forcément plus fort. L'UBB qui rencontrera du coup Northampton, qui a gagné face à Leinster sur le score de 37-34. C'est une petite surprise hein, du côté de Northampton. Moi, je les voyais pas gagner. La finale, finalement, toute tracée, c'était Toulouse-Leinster, le remake de l'année dernière. Et au final, on a eu tout faux. C'est UBB-Northampton qui crée la surprise. Ils ont failli se faire remonter les joueurs de Northampton en deuxième mi-temps, mais ils ont été très, très solides. Donc, finale à Cardiff, Northampton-UBB.
C'est ça, ouais. Puis Northampton, j'aimerais bien en parler parce que c'est que cette saison où on les voit vraiment actifs, puisque ben, effectivement, là, en 2024, ils ont remporté leur titre de champion d'Angleterre, alors que ça faisait au moins une vingtaine d'années qu'ils n'étaient pas sur la scène. Hein. De base, c'était Saracens, c'était les fameuses équipes de Saracens, etc. Northampton, le fait de les voir en finale, c'est une première depuis très longtemps, depuis 2011 d'ailleurs, qu'ils ne sont pas qualifiés pour la finale de Champions Cup. Ça remonte à loin, puis contre Leinster. Pour moi, l'équipe la plus maudite, on va dire, de cette compétition depuis au moins 5-6 ans, c'est Leinster. Ça fait depuis 2018, donc leur dernier titre en date, qu'ils n'ont pas gagné. Même s'ils ont éliminé les grands comme le Stade Toulousain, ils n'ont pas su s'imposer, puisqu'il y a La Rochelle qui forcément avait fait le doublé contre eux. J'y étais à Dublin en plus en 2023. Exceptionnel, La Rochelle qui fait une remontada chez eux à Dublin. Mais là, 34-37 pour Northampton à Dublin, c'est plus qu'une humiliation.
C'est à chaque fois les favoris, et depuis 2018, ils déçoivent un peu face à des équipes forcément qui ont juste plus envie qu'eux. Et c'est vrai que jouer contre un favori, si t'es Northampton, tu joues contre Leicester, c'est le grand favori, ça te motive encore plus. Leicester a peut-être aussi une pression de gagner, parce que comme tu l'as dit, ça fait depuis 2018 qu'ils n'ont pas gagné, donc il y a une pression autour de cette Champions Cup. Ça peut peser, et ça a pesé, hein. Victoire 37-34, finale Northampton UBB à Cardiff, le week-end du 23 mai, donc 23-24 mai, on ne sait pas encore, mais il faut réserver ce week-end parce que ça va être une finale encore exceptionnelle avec deux équipes qui se valent parce qu'elles n'ont pas démérité leur parcours pour arriver jusqu'ici. Donc rendez-vous le week-end du 23 mai pour la finale de la Champions Cup. Je ne sais pas qui supporte. Moi, je ne peux pas supporter Bordeaux, en tout cas, ça c'est sûr. Je serais peut-être pas non plus pour Northampton.
Bon, tous derrière Pollock. Tous derrière Pollock, le joueur de Northampton.
Exactement. Moi, je serais pour l'arbitre parce que franchement, supporter Northampton, je peux pas. Supporter Bordeaux, je peux pas. Mais ça va être une très belle finale et il faudra être là pour la regarder le week-end du 23 mai. Du football désormais, juste avant de passer à la grande Ligue des Champions, une campagne de Ligue des Champions exceptionnelle cette année. On va parler de notre bien Ligue 1. La bonne vieille Ligue 1 finalement. Toulouse qui gagne enfin après une série de 7 ou 8 matchs sans victoire.
140 jours sans victoire.
140 jours sans victoire. Une victoire au Stadium qui plus est victoire 2-1 contre Rennes dans un match un peu ennuyant franchement. Tout le match on s'est un peu ennuyé, mais victoire 2-1, il y a eu 3 buts avec des joueurs. Moi je retiens Donum qui a été exceptionnel. Guillaume Rest qui nous a sauvé la vie aussi sur un arrêt en première mi-temps. Et franchement tout le collectif était intéressant à voir puisque c'était un beau jeu d'équipe finalement. C'était plus un match tactique qu'un match d'attaque ou un match de but, donc c'était plus intéressant à voir quand même. Il y a Gbo aussi après une longue disette qui revient, qui marque sur un but très bien construit, et encore c'est le départ et de Donum, donc Donum a été exceptionnel. C'est le joueur le plus régulier pour moi de l'année, Donum. On l'a beaucoup critiqué, mais c'est pour moi le meilleur joueur avec aussi Sidibé qui est très solide derrière. Donc victoire 2-1, pas trop de conséquences au classement. Toulouse qui recolle juste à Rennes pour la 12e et 11e place de Ligue 1 qui est officiellement maintenue. Bon, on était maintenu un peu, mais bon, il faut se rassurer. Là, mathématiquement, on peut plus descendre, on peut plus aller au barrage. C'est pas mal, là, on y était au Stadium. Franchement, belle ambiance en Virage Brice.
Bah oui, on y était pour vous en Virage Brice. Mais après, oui, je reprends par rapport à ce que tu as dit. Match ennuyeux, effectivement, c'était le match du ventre mou. Rennes n'était pas prêt pour l'Europe, mais pas non plus prêt pour descendre en Ligue 2. Et c'est pareil pour nous, on s'est sauvés parce qu'on était quand même si on a gagné, que là, mathématiquement, on ne peut plus descendre, on n'était toujours pas, enfin, nous n'étions pas encore sauvés, hein, puisque le Havre avait gagné.
Il fallait se sauver, ouais. Il fallait
pas
se sauver.
Loin, c'est ça. Et oui, je reprends aussi par rapport à ce que tu as dit, Gbo qui marque contre son ancien club en plus, je précise.
Et qui célèbre.
Et qui célèbre en plus. C'est surtout ça, mais ce que je retiens le plus, c'est quand même Aaron Donum, parce que, alors, effectivement, il a essayé de tenter une première frappe, la même, celle qui a mené au but du 2-1, Et surtout quand Brice Samba, il commence à... Parce que de base, il y avait aussi un but sur hors-jeu. Brice Samba, oui, qui commence à nous regarder dans le virage, il commence à faire des gestes. « Oh, mais oh, les gars, il y a hors-jeu, arrêtez de crier contre moi. » À un moment, il a commencé un peu à invectiver Aaron Donum. Aaron Donum qui retente la même frappe, qui cette fois rentre et fait la célébration karma devant Brice Samba, le gardien du Stade Rennais. Donc ça, c'est notre bonne vieille Ligue 1, c'est tout ce que j'aime finalement.
C'est ça, pour une fois que c'est nous qui chambrons et pas l'inverse, parce que je sais qu'on est habitué à se faire chambrer, chambrer par les autres supporters, même par les autres joueurs. Donc franchement, ça fait plaisir de voir qu'on marque et on est efficace
et qu'on gagne
une fois. C'est pas, on finit pas un match avec des regrets pour se dire « ouais, bah... pff, on aurait dû marquer là, là, là. » Là, on a marqué Donum qui a été exceptionnel. Il a passé 2-3 joueurs avant de marquer. Et même, il est à l'origine du premier but. Et à noter aussi, apparemment, ce serait Guillaume Rest qui aurait fait la passe décisive sur Donum.
Oui,
donc,
c'est Guillaume ce que
Guillaume Rest
vu,
qui
oui.
compte une passe décisive. Donc, ça montre bien le jeu de projection que voulait Carles Martinez Novel. Un gardien qui fait une passe décisive, deux passes pour marquer un but face à une équipe de Ligue 1, c'est pas mal. Franchement, c'est un bon match de référence de fin d'année à s'appuyer parce que Rennes était clairement à notre niveau. Était clairement abordable, donc c'est un bon match pour s'appuyer pour les prochaines rencontres. Finalement, prochaine rencontre, c'est Lens, c'est samedi à 21h. On y sera encore pour vous. On sera pas à côté avec Alex, mais on y sera quand même pour vous. Soyez présents finalement, parce que le TEF veut finir la saison en beauté juste avant le dernier déplacement à Saint-Etienne. Un mot peut-être sur le prochain match contre Lens.
Alors, franchement, Lens, ce qui est très bien, je reviens sur Toulouse-Rennes, c'est il fallait gagner parce que moi je pensais qu'on allait faire match nul contre eux pour se sauver. Bon, c'est très bien. Malheureusement, Lens, c'est au-dessus de Rennes. Ils sont dans le top 5 au moins. Enfin, ils sont. Alors, je pense qu'ils ne vont pas jouer l'Europe. Hein. Ils sont largués complètement. Mais ils sont mieux classés que Rennes. Donc, je pense, à mon avis, si on fait match nul ou une défaite, bon, ce sera. Bon, c'est pas grave, hein, parce qu'on va dire qu'on s'est sauvé. Mais moi, je pense que même si là, on part sur une bonne dynamique, je ne vois pas le TEF gagner contre Lens. Je pense, à mon avis, on perd, mais sur un petit score, on va dire, allez, 1-0 pour Lens. Ou alors peut-être la surprise, on gagne deux matchs d'affilée au Stadium, hein, ce serait une prouesse. Hein.
Ce serait fou et surtout qu'on les a battus, Lens,
à
en
Bollard,
début
oui.
de saison.
J'y étais en
voilà,
plus.
Il était, Alex y était pour nous, il n'y a pas eu d'émission malheureusement
à ce moment-là. Ouais,
à ce moment-là, mais très belle ambiance toujours à Bollard. Et franchement, on peut espérer peut-être Lens qui joue quand même l'Europe, qui joue le tableau, a des choses à prouver. Donc à voir pour le TEF qui peut peut-être les embêter le week-end prochain. Donc rendez-vous samedi 21h pour la rencontre Toulouse-Lens au Stadium. Bon, assez parlé de la Ligue 1, maintenant on va parler d'un niveau quand même au-dessus. La Champions League puis l'Europa League. Peut-être d'abord l'Europa League pour le suspense un peu. Demain se jouent les deux demi-finales d'Europa League. C'est Bodo Glimt contre Tottenham et Manchester United face à l'Atlético Bilbao. Tottenham Bodo Glimt, bon, avantage Tottenham qui a gagné déjà 3-1 chez eux à Tottenham, qui se déplace donc à Bodo Glimt, un club norvégien que personne n'attendait à ce niveau-là. Franchement, un club d'une petite ville de Norvège qui se hisse jusqu'en demi-finale d'Europa League, c'est pas mal, qui part quand même avec un désavantage, mais qui joue chez eux.
En Norvège, oui.
En Norvège. Donc, demain 21h, Alex.
Alors franchement... Pronostic, si je dois pronostiquer
entre Bodo Glimt. L'instant prono, ce sera après, mais pronostic.
Alors franchement, Bodo Glimt, oui, on les voyait pas du tout en demi-finale, Bodo Glimt. En plus, je me rappelle très bien de leur parcours il y a quelques années quand ils étaient en Conference League. Ils avaient battu la Roma, il me semble. Enfin,
ils avaient perdu contre la Roma.
Mais c'était serré, c'était hyper serré.
Très beau parcours.
Très beau parcours. Merci en tout cas de m'avoir repris sur ça. Donc par rapport à Bodo Glimt, je pense pas qu'ils vont gagner, même si ça joue en Norvège. Peut-être, si pour l'honneur, on va dire, s'ils gagnent le match 1-0, mais je ne les vois pas se qualifier parce que Tottenham, ils sont trop... Enfin, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné de trophée, ils sont hyper frustrés. Ils veulent au moins se qualifier pour la finale et ils sont plutôt bien partis, mais comme, on sait... enfin, comme je te dis, on ne sait pas, avec le football, tout peut changer, tout peut arriver. Mais je ne pense pas que Bodo Glimt va gagner contre Tottenham.
Le dernier trophée de Tottenham, je ne sais plus ce que c'était, peut-être la Audi Cup en 2008, mais c'est tout. Donc franchement, un trophée pour l'équipe londonienne, ça peut être pas mal. Le second match, c'est Manchester United face à l'Athletic Bilbao. Demain aussi à 21h, Manchester United qui a pris une sérieuse avance hein, au match aller en Espagne à Bilbao, 3-0 dans un match où les Mancuniens ont dominé totalement. Et ça contraste un peu avec leur performance en Première Ligue, vu que Manchester United est 15e de Première Ligue, c'est anormal pour...
C'est inhumain, là.
c'est vraiment anormal, mais qui n'a pas perdu en Europe cette année, donc c'est assez impressionnant. Match retour chez eux à Manchester, donc avec déjà 3 buts d'avance, donc ça semble... Le chemin est tracé pour la finale pour Tottenham et pour Manchester United, donc peut-être une finale 100% anglaise, peut-être enfin un trophée pour Tottenham, peut-être le retour aussi au premier plan de Manchester United, ça peut les relancer pour la saison prochaine. Terminer 15e, faire une saison blanche pour United, ça peut être chaud, donc je pense qu'ils misent tout maintenant sur l'Europa League.
En tout cas, on voit vraiment le sens des priorités, hein, que Manu, qui est en Premier League, est complètement largué, mais par contre, en Europa League, alors là, tout va bien pour eux, ils roulent sur l'or. On se rappelle du match de fou qui s'était passé entre Lyon et Manchester United.
Ah, c'était
Maguire,
fou.
Maguire, à la dernière minute, qui vient climatiser donc à Old Trafford, directement à Lyon, c'était un match impressionnant.
Maguire ouais. Qui marque et qui fait la différence, franchement, c'est pas tous les jours que ça arrive. Face à Lyon, malheureusement, bon, on supportait un peu Lyon en tant que supporter français, on supportait Lyon, mais c'était quand même un match de fou. Il y a eu aussi d'autres matchs de fou. Le match de fou, c'était quand même hier soir en Ligue des Champions. Quel match ! Inter-Barcelone qui a vu l'Inter se qualifier. Grosse surprise de la part des Interistes qui viennent décrocher la victoire dans les prolongations. Match 4 à 3, victoire de l'Inter en cumulé, ça fait 7 à 6, 13 buts sur les deux rencontres, avec un début de match clairement interiste, hein, où ils gagnaient déjà 2-0, puis un retour du Barça 2-2, puis le Barça repasse devant encore 3-2, pour se faire rattraper juste avant la fin du match à 90+4.
Et à Cherby, oui.
À Cherby, le vieux Briscard qui est toujours là, qui lâche rien, il vient, je me rappelle de son époque à Sassuolo, à Cherby, qui vient marquer, qui vient faire le taf d'un numéro 9, hein, finalement, parce que il fait un peu comme les joueurs du PSG qui marquent, là, les défenseurs qui marquent cette année, c'est assez impressionnant. Et finalement, le but du 4-3 pour achever les Barcelonais. Donc le parcours de Barcelone s'arrête ici, tout le monde les voyait gagnants, tout le monde les voyait favoris, évidemment, face au PSG. En finale, là, tout était tracé, comme au Champions Cup, sauf que là, bah, première surprise, Inter qui vient gagner dans un match fou. C'est là où on voit peut-être l'expérience et le vice de l'Inter qui a des joueurs un peu plus expérimentés en Ligue des Champions, alors que bon, on sait le Barça, ils sont accompagnés par des jeunes cracks, c'est la Masia, c'est le centre de formation. Donc l'expérience a primé face à la jeunesse hier soir.
Effectivement, puis là je pense que là on part sur, pour moi honnêtement, je pense que cette demi-finale c'est le match de l'année. Tout simplement le match de l'année, parce que là je suis désolé, déjà dans l'ensemble tu as 7 buts à 6, 4 buts à 3 même dans ce match, on savait même pas qui allait gagner, et c'est que à la 100e minute où finalement on a pu voir, même si 20 minutes après on pouvait pas savoir si le Barça allait revenir. Moi je suis un petit peu déçu par rapport à ça, puisque je me suis dit que le Barça cette saison allait forcément rouler sur tout le monde, puisqu'on voit en Espagne justement, en Espagne ils sont plutôt bons cette saison par rapport au rival madrilène.
Donc c'est ça, des supporters barcelonais m'annonçaient le triplé. Bon, ils sont peut-être bien partis pour le doublé.
Un petit peu trop loin quand même pour le triplé.
Bien partis pour le doublé, mais ça fait une disette quand même de 10-11 ans du Barça sans gagner de Ligue des Champions. Bon, ils vont la gagner dans les années à venir, c'est sûr, avec la génération qu'ils ont. Malgré la défaite, moi j'ai retenu quand même Lamine Yamal qui est toujours, je trouve, au-dessus. Ils étaient obligés de faire des prises à 2-3 sur lui. Il était vraiment exceptionnel, ce type. Il me rappelle vraiment Neymar dans ses gestes et dans sa folie, dans sa créativité. Donc il enchaînait plein de victoires, Lamine Yamal, ça remet un peu sur terre. Donc victoire finalement 4-3 de l'Inter, 99e minute, Fratesi qui vient vraiment crucifier les Barcelonais. Après l'Inter, ils ont mis le bus, hein. De toute façon c'est le foot italien, on connaît la solidité défensive du foot italien de la Serie A. Donc Inter.
En finale.
Qui va les rejoindre en finale finalement? Qui va les rejoindre, Arsenal ou Paris? Paris qui a pris une sérieuse avance, 1-0. À l'Emirates, la semaine dernière, à l'Emirates 1-0, avec un gros but de Dembélé. Dembélé qui finit, c'est le nouveau Dembélé de cette année, hein, le version 2025, qui finit ses actions et qui, pour autant, ne perd pas toutes ses qualités de dribbleur. Donc, avantage PSG, qui en plus joue à domicile. Bon, on sait que le PSG à domicile, c'est un peu plus compliqué. J'ai des souvenirs de 2018, de Marcus Rashford, qui marque des pénaux, de Buffon, qui fait des bourdes. Donc à eux de gérer la pression. Maintenant, c'est une toute autre équipe de Paris qui fait face à un Arsenal qui est quand même en forme, mais on a vu face au PSG qu'ils n'ont pas pu tenter beaucoup de choses, quoi.
C'est ça. Puis là, est-ce qu'on ne ferait pas l'instant prono, Fio?
Mais c'est l'heure de l'instant prono.
C'est l'heure de l'instant prono, là.
C'est l'instant prono. Alexandre.
Alors, PSG-Arsenal. Grosse affiche, hein. Grosse affiche. Puis en plus, même Paris qui s'était imposé au match aller. À l'extérieur, donc à l'Emirates Stadium. 1-0, pour moi, c'est un score assez léger quand même. 1-0, je me dis, il peut tout arriver en match retour. En plus, on connaît les vieux démons du PSG. On se dit, bon, à l'aller, ils gagnent. Donc, peut-être qu'ils vont lever le pied. Puis après, ils sont remontés. C'est toujours comme ça. On l'a vu avec Aston Villa. Je reprends toujours ce match parce que pour moi, ce match, c'est vraiment. Ça aurait pu être. La fin pour le Paris Saint-Germain, heureusement qu'ils ont eu des buts en avance, bref. Mais du coup, par rapport à PSG-Arsenal, je vois quand même le PSG gagner, allez, je pense 2-1, parce que Arsenal va faire peur au Paris Saint-Germain, puis, allez, on va dire, le Paris Saint-Germain va jouer le bus, et puis il y a Dembélé qui va ouvrir le score, et probablement Barcola, donc moi je pense Dembélé-Barcola buteur, Declan Rice buteur pour Arsenal, 2-1 pour Paris, Paris va en finale. Et c'est ma ultime réponse. Maintenant, place à toi, Raphaël.
Alors, pour ce qui est de mon pronostic, je vois quand même Paris passer. Et je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que Paris peut se faire peur parce que malgré que ce soit pas du tout la même équipe qu'avant, y a toujours cette aura de perdre en Ligue des Champions, de décevoir en Ligue des Champions. Ils ont l'air quand même de filer tout droit vers la finale avec une équipe mêlant quand même expérience et jeunesse. Je pense à Désiré Doué qui est trop fort, ce type. Il est vraiment trop fort. Avec la solidité défensive aussi de Marquinhos, d'Hakimi, de Nuno Mendes derrière. Ils ont tout pour gagner la Ligue des Champions cette année. Donc franchement, ouais, je vois une victoire du PSG, peut-être un pas. Ça va être très très serré. Arsenal qui va attaquer, c'est obligé. Arsenal qui va... Ils ont rien à perdre, Arsenal. Donc un petit 2-1 aussi, je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis pas très original, mais un 2-1 pour le PSG qui va se qualifier en finale face à l'Inter qui va les rejoindre au... C'est à Munich la finale, à Munich.
C'est à Munich,
ouais, donc victoire du PSG 2-1. Pour les buteurs, je dirais peut-être Saka, un but de Hakimi, un but de Doué. Pour les deux buts parisiens, ouais, je valide ma réponse. 2-1 pour le PSG, le PSG file en finale.
Et ben, sans attente, hein, c'est un sans prono, je pensais pas qu'on allait être d'accord, toi et moi.
C'est mon ultime bafouille.
C'est mon ultime bafouille.
Ouais, non, franchement, on voit tous les deux le PSG aller en finale. On verra bien, de toute façon on se donne rendez-vous ce soir. C'est le match, 21h ce soir, faudra être présent. Ça c'est le match à pas rater. Hier soir, fallait pas rater le match. Ce soir, faut pas rater le match, des gros enjeux.
Ah, mais comme dit Péfut, il ne faut pas arriver en retard dans un 90.
Exactement. Donc soyez à l'heure, 21h sur Canal, et pas sur des IPTV, hein, sur Canal, voilà. Et on verra bien le résultat. Bon, on a assez parlé de foot, on va parler un peu de Formule 1 quand même. Il s'est passé un petit Grand Prix, le Grand Prix de Miami. Moi j'adore ce Grand Prix, franchement, c'est coloré, il y a toutes les livrées qui sont différentes, les casques qui sont différents, il y a plein d'animations autour du Grand Prix. Et le Grand Prix de Miami a vu couronner Oscar Piastri, encore une fois, qui enchaîne une deuxième victoire d'affilée dans ce championnat de Formule 1 2025, juste devant Lando Norris, George Russell, Max Verstappen et Alexander Albon dans sa Williams, qui complète le top 5. On le rappelle, c'est Kimi Antonelli qui avait gagné la course sprint la veille. Pour ce qui est des faits, d'ailleurs Kimi Antonelli qui finit 6e, donc grosse déception de l'Italien. Et les Ferrari qui finissent P7, P8, comme d'habitude. J'ai l'impression que c'est toujours pareil avec ces Ferrari. On avait un gros espoir en début de saison qu'ils puissent venir titiller ces McLaren. Mais finalement, Max Verstappen et les deux Mercedes sont clairement au-dessus de ces Ferrari qui sont au top 4 au constructeur. Esteban Ocon, Pierre Gasly, Isaac Hadjar qui se suivent 11, 12 et 13e place respectivement, les trois Français. Alexandre Rabot sur ce Grand Prix.
Alors effectivement, comme tu avais dit, la course colorée, mais pas ensoleillée. Hein. Il faisait gris à Miami. Quel temps pourri, mais on a quand même assisté à une très belle course qui a, bien évidemment, je reprends ce que tu as dit, Piastri sur le podium, hein, qui ensuite était complété par les deux British du moment avec Lando Norris et George Russell. Je les vois partout, ils sont toujours là et c'est ensuite de Max, bien sûr, qui a terminé à la 4e place. Et justement, il faut en parler de ce qu'il a fait dans ce Grand Prix, Max Verstappen, puisque, je vais parler après bien sûr, mais disons que ça a fait agir pas mal de monde, mais en mal. Bon, je vais surtout m'attarder sur la prestation de Ferrari qui malheureusement a fait une course cauchemardesque, avec la P7 pour Leclerc et P8 pour Hamilton. On assistait aussi aux séquences radio entre Ferrari et les ingénieurs. C'est toujours des mèmes dessus, c'est ça qui est exceptionnel, c'est que les sessions radio avec Ferrari, c'est toujours des instants anecdotiques dans ces Grands Prix en général. Mais bon, moi, surtout, ce que je retiens, malheureusement, c'est la sortie prématurée de Jack Doohan, dès le second tour avec sa Alpine. puisqu'il me semble justement il s'était frité avec un autre mec et résultat
exactement très mauvais début de saison pour Douane. D'ailleurs, t'as une info sur Douane?
Et oui, j'ai une info puisque c'est Colapinto qui le remplace en tant que titulaire. Donc là on va dire qu'à Imola il prendra sa place, et après je ne sais plus exactement jusqu'à quand il a son contrat, mais
pour 6 grands prix apparemment.
Pour 6 grands prix,
pour 6 grands prix pour l'instant. Donc c'est une phase de test hein, chez Alpine qui encore une fois est peut-être très prometteuse pour l'année prochaine. Comme l'avait dit Pierre Gasly, ils cherchent encore leur équilibre cette année, mais ils sont clairement pas focus sur cette année 2025. Tu voulais revenir peut-être sur Max Verstappen ?
Exactement, oui, je vais revenir sur Max Verstappen puisque je le trouve trop agressif au volant. Bon, c'est vrai que c'est facile de critiquer Max Verstappen puisqu'on s'en rappelle, quelques années avant, il faisait que gagner. Mais là, pour le coup, en ayant vu le Grand Prix, je peux assurer que Max Verstappen, on le voyait, il a été trop agressif au volant et on dirait qu'il était prêt à tuer même pour se qualifier. On dirait que j'exagère comme ça, mais c'est vrai puisque dès le premier virage, il a commencé à bloquer Lando Norris quasiment contre le mur, et c'est très dangereux de faire ça, c'est même anti-sportif, et il a récidivé au 15e tour. Bien sûr, aucune enquête de la FIA contre lui. Circuler, il n'y a rien à voir, comme disait les commissaires, parce que tu attaques comme ça au premier virage. C'est vrai que les commissaires, ils sont assez cléments sur ça. Bon, c'est vrai que c'est des mots durs que je suis en train de dire, dans le sens
non,
que je critique la FIA, mais bon, vraiment, il a récidivé plusieurs fois Max Verstappen pour garder sa première place, et... Mais voilà, comme je t'ai dit, je trouve que c'est très dangereux et j'espère qu'il y aura des réactions par rapport à ça.
Bah, c'est le pilotage de Max qui est assez agressif, et en plus, là, on le remarque d'autant plus parce qu'il est un peu plus dans le peloton. Il n'est pas seul devant comme il était les trois dernières années quand il dominait encore chez Red Bull. Donc il doit batailler. C'est sûr que son côté agressif qui était là de 2016 jusqu'à 2020, il ressort beaucoup. Il est dans les batailles. Il n'est plus tout seul devant à 15 secondes du second. Donc on voit le vrai Max Verstappen hein, qui revient finalement, mais je voulais juste revenir sur McLaren qui vraiment s'envole au classement, hein, vraiment P1, P2 à chaque fois. On l'avait dit de toute façon en début de saison que cette équipe de McLaren allait faire très mal, ils ont fait une très très bonne remontée, une très très bonne voiture. Donc Oscar Piastri qui conserve sa première place au championnat avec 131 points juste devant Lando Norris, 115 points, et Max Verstappen qui est troisième avec 99 points. Les deux Ferrari sont, elles, cinquième pour Charles Leclerc et septième pour Lewis Hamilton. C'est un peu compliqué pour les Ferrari en ce moment. Nous deux qui sommes supporters, sommes des tifosi, c'est un peu compliqué. McLaren qui va sûrement filer tout droit vers le championnat constructeur, même si c'est pas fini. On peut peut-être espérer que Yuki Tsunoda, à bord de sa Red Bull, sa nouvelle écurie, puisse s'habituer à la voiture et aider Max dans sa quête de titre constructeur. Ça va être un peu compliqué. Prochain rendez-vous, c'est le week-end du 16 au 18 mai à Émilie-Romagne, à Imola. Un grand prix mythique hein, qui a beaucoup d'histoire, qui est assez technique, qui est assez usant sur les pneus. Donc à voir si Oscar Piastri est encore aussi solide qu'avant. C'est un gars plutôt timide, Oscar Piastri, mais qui fait le job et qui est premier du championnat. On dirait pas comme ça, mais il domine clairement.
En plus, Imola, ça me fait toujours penser au fameux crash de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna en 94. Ben, c'est, je pense, malheureusement tristement connu pour ça, Imola. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'accident tragique. J'espère que tout va bien se passer dans le prochain Grand Prix qui aura lieu.
En 2025, normalement, oui, toutes les mesures de sécurité sont prises. De toute façon, là... Émilie-Romagne, ça annonce la tournée européenne finalement. Avec Émilie-Romagne, il y aura Monaco, il y aura l'Espagne, il y aura juste une petite pause en passant par le Canada, puis il y aura l'Australie, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Italie. Donc là, on entame une grosse tournée européenne avec des circuits aussi urbains qui vont redistribuer un peu les cartes. Donc prochain rendez-vous le week-end du 16 au 18 mai à Imola. Pour terminer, comme toujours, on va terminer sur un mot de l'équipe du Phoenix qui enchaîne une victoire improbable face à Montpellier, 31-29 des Toulousains face au Montpellierin qui était clairement favori puisque second du championnat. Nantes désormais leur est passé devant avec 44 points, Montpellier 43 points et Toulouse bien loin derrière, 32 points, mais qui gagne. C'était pas donné hein, pour les Toulousains. Dans un match où ils se sont fait dominer en fin de première période et en début de seconde. Et finalement, dans les 5 dernières minutes, ils ont été très solides défensivement. Il y avait 29-29 et ils ont réussi à marquer 3 buts d'affilée sans s'en prendre. Donc très solides défensivement, ces joueurs du Phoenix. C'est de bon augure hein, pour la prochaine saison. Il faudra se baser aussi sur ce match pour construire une équipe pour la saison prochaine et à peut-être aller chercher le top 3 cette année, faire partie du top 3, je pense que c'est un objectif de cette équipe. Donc gros match face à Montpellier, ils n'étaient pas favoris, ils ont réussi à l'emporter 31-29.
Franchement là, Toulouse-Montpellier, mais quelle affiche, le derby remporté par Toulouse alors que pourtant Montpellier est quand même mieux classé, faut le dire, il y a au moins 11 points d'écart entre les deux. Mais je suis quand même content ce que le Phoenix a fait, puisqu'ils ont tout simplement, ils ont commencé à, sur les 4 victoires de Montpellier, ils ont stoppé l'ascension de Montpellier avec 7 défaites, que Montpellier bien sûr a du mal à avaler, puisque ça aurait pu, pour eux, ils auraient pu prétendre toujours à la place de Ligue des Champions, de la Ligue des Champions de handball, pardon. Alors ils sont toujours pas loin, mais c'est vrai que ça les freine un petit peu, puisque Nantes a gagné, donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour Montpellier. Mais c'est un problème pour nous, puisque on permet à peu près de mettre quelques points d'écart sur Nîmes, sachant que Saint-Raphaël, ils sont hors de la compétition pour l'instant. Donc là, ça joue entre nous et Nîmes pour savoir qui va rester dans la Ligue européenne pour la saison prochaine. Et comme tu as dit, effectivement, solidité défensive, puisqu'on est revenu. On est revenu, évidemment, à la 55e minute, justement, quelques minutes avant la fin. Il y avait 29-29. On est revenu avec 2 buts, donc 31-29. Toulouse qui gagne le derby d'Occitanie avec 31 points, c'est plus que symbolique.
Franchement, c'est pas mal et c'est de très bon augure pour la suite. Il faudra vraiment se baser sur ce match pour les dernières rencontres qui restent. Prochaine rencontre, c'est le 24 mai face à Saint-Raphaël. Donc peut-être la semaine prochaine, il n'y aura pas des nouvelles du Phoenix pour une fois. Prochain match contre Saint-Raphaël à Saint-Raphaël. Donc il va falloir gagner et confirmer la bonne forme de nos Toulousains. L'émission touche déjà à sa fin, donc on a fini évidemment par le Phoenix. La semaine prochaine, il y aura un peu moins d'actu, parce que il n'y aura pas le Phoenix, il n'y aura plus non plus la Ligue des Champions. On en parlera quand même de ce match ce soir qui se déroule au Parc des Princes. La semaine prochaine, on parlera évidemment du Stade Toulousain qui se déplace à Toulon au Stade Vélodrome. Le Stade Vélodrome qui va être à guichet fermé évidemment pour ce choc. Toulouse qui doit se relancer après la défaite face à l'UBB. On parlera aussi donc de foot de Ligue des Champions, on parlera du TFC, du match contre Lens et on se projettera aussi sur le dernier match face à Saint-Etienne à l'extérieur pour bien terminer la saison pour nos Toulousains. On parlera aussi de MotoGP, il n'y aura pas de Formule 1, donc on alterne un peu la MotoGP qui se déplacera en France. Ce sera à domicile pour nos Français Johan Zarco et Fabio Quartararo du week-end du 11 au 9 mai, donc nos Français auront à cœur de faire un bon résultat à domicile. Évidemment, on remercie Grégor à la technique pour toutes les musiques qu'il met, pour toute l'ambiance qu'il met. Ça fait partie aussi de l'âme de l'émission, donc on peut le remercier à Grégor.
Franchement, moi je le remercie. C'est grâce à lui que l'émission aussi elle continue. Elle continue et qu'elle est assez fluide aussi. C'est grâce à lui, c'est grâce aux transitions, c'est grâce aux musiques. Donc voilà, on te remercie.
Du rythme et le groupe vit bien. Donc merci à toi, Grégor.
Le groupe vit bien.
Merci à toi, Grégor. Merci à toi, Alex, pour cette émission. C'était encore un plaisir.
Écoute, tout le plaisir est pour moi. Et je reviens par rapport au Stade Toulousain. J'ai pas envie qu'il fasse une saison blanche. D'ailleurs, ce serait inhumain. Enfin, ce serait même une anomalie de voir le Stade Toulousain avec une saison blanche. On dirait comme si nous étions en 2016 ou en 2017. Où on n'avait pas
c'est
la
ça,
Champions
c'est...
Cup.
Non, c'est pas compliqué. Surtout qu'on finit premier du championnat. On finit premier du championnat, je pense. On va finir premier devant l'UBB. Donc ce serait mérité. Il faut gagner. Il faut un sursaut d'honneur de cette équipe. Peut-être avec le retour aussi des blessés. Donc on verra bien. Et de toute façon, on vous dit, avec Alexandre, on vous dit
à la semaine prochaine.